France Inter, le 18-20.
Entre eux, ils s'appellent les 10 et ils sont 7 millions en France à vivre comme vous et moi, évidemment, avec juste un trouble qui ne se voit pas, qui n'est évidemment pas forcément grave d'ailleurs non plus, et qui rend pas moins intelligent, ça n'a rien à voir, mais qui peut être très handicapant à l'école, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, les dyslexiques, les dysorthographiques, les dyspraxiques, les dysphasiques, ceux qui ont du mal à lire ou à écrire sans faire beaucoup de fautes, ceux qui n'arrivent pas à calculer, rien à faire, ou ceux qui ont du mal avec la coordination de certains mouvements. On a progressé, notamment à l'école, même s'il reste de très gros progrès à faire, et on le verra parce que c'est ce que disent la plupart de vos questions depuis cette fin d'après-midi. Et comment fait-on quand les fautes d'orthographe dans l'entreprise nous font passer pour un idiot, même si ça n'a évidemment rien à voir? Quand tout passe par l'écrit, aujourd'hui, quand on imagine que vous manquez sévèrement de bonne volonté ou simplement de concentration, il y a des méthodes, il y a peut-être des stratégies de contournement, il y a peut-être des compensations, ça doit être épuisant, très franchement, et c'est de cela dont on va parler ensemble ce soir. Vous êtes déjà très nombreux au standard, alors ne perdons pas de temps, on est parti.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Valérie, c'est vous qui commencez, soyez la bienvenue Valérie, bonsoir.
Merci beaucoup de prendre mon témoignage. Je vous salue et je salue vos émissions que j'écoute régulièrement.
Merci Valérie.
Alors, voilà, moi je suis maman d'un jeune qui a 17 ans aujourd'hui, qui va passer le bac dans quelques semaines. Notre parcours a été très éprouvant parce que notre petit, dès son entrée en primaire, a fait très vite à développer une phobie scolaire qu'on appelle pudiquement trouble anxieux ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, on jette le voile là-dessus, mais une phobie scolaire. Il a continué bon an mal an à poursuivre sa scolarité en primaire et à la fin du primaire on nous a dit écoutez, ça va être compliqué pour lui au collège, parce que c'est vrai que le collège de notre secteur est un collège très élitiste où évidemment ces enfants-là ont difficilement leur place. Donc on a fait le choix avec son enseignant de l'époque et la directrice de l'établissement où il était l'orienter vers une ULIS. Donc une ULIS, c'est un dyspositif qui est prévu pour ces enfants dyslexiques, dysorthographiques sévères. Ils peuvent y être accueillis et suivre une scolarité en milieu ordinaire. Il a pu se reconstruire durant ses 4 années de collège, donc ça c'est plutôt très positif. Il est tombé aussi sur des enseignants bienveillants et qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé. Et à l'issue de sa classe de troisième, donc il a passé le brevet comme tous ses petits camarades, et les professeurs nous ont dit « mais c'est un enfant qui est intelligent, qui a tout à fait sa place dans un lycée ordinaire ». Donc il a poursuivi en lycée ordinaire, aujourd'hui il va passer son bac, et le problème c'est que il a eu des refus d'aménagement d'examen, alors que c'est un jeune qui a des adaptations vraiment spécifiques, puisqu'il a une AVS quelques heures par semaine qui viennent l'aider justement à s'organiser, à reprendre confiance en lui.
Donc une assistante, AVS ?
Une assistante de vie scolaire. C'est une personne qui est là, qui l'accompagne quelques heures par semaine pour l'aider à prendre ses cours, etc. C'est un enfant qui travaille avec un ordinateur, il prend toutes ses notes en cours avec un ordinateur. Donc, il va passer son baccalauréat et on lui a refusé en grande partie ses aménagements aux examens. Donc là, je suis dans l'incompréhension totale parce que, si vous voulez, on peut pas accompagner un enfant pendant pratiquement toute sa scolarité et arriver au bac et dire,
débrouillez-vous,
il n'y a rien à voir, débrouillez-vous, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Valérie, qui nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet et vraiment dans notre sujet de ce soir pour en parler, répondre à vos questions et apporter aussi leur témoignage. Nathalie Groella, bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération française des 10. Et Florence Marchal est là également. Bonsoir. Vous êtes médecin physique et de réadaptation aux hôpitaux de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, c'est ça?
Oui.
Je voudrais commencer avec vous, Nathalie Gros. C'est vrai que ça a l'air complètement dément, en fait, cette situation de Valérie. Voilà qu'on accompagne son gamin tout le temps jusqu'à 17 ans et qu'elle se bat et que ça marche bien, donc, au lycée avec tout le monde. Arrivé au bac, patatras, en fait. C'est quand même fou, non? Comment c'est possible? Est-ce que c'est tout le temps comme ça?
La grosse difficulté que vous disiez, les dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, c'est que la diversité des troubles sont diverses. Là, on a un jeune homme de 17 ans qui a été suivi pendant tout le long de sa scolarité, qui a eu des aménagements au brevet, je suppose, et puis au bac, on considère que finalement, ces troubles, ils ont disparu, parce que tout simplement, il a réussi à passer l'échelon du lycée. Donc là, c'est vraiment un problème qu'on vit que vivent l'ensemble de tous les jeunes 10 aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est que la reconnaissance de leurs droits au moment des examens, eh ben, c'est comme si ça n'existait plus. Donc on refait des dossiers. Il faut savoir que chaque année, pour avoir un aménagement aux examens, il faut refaire un dossier à l'automne, pour recommencer un dossier, redire qu'on a besoin. Mmh. Alors que,
en gros, ça veut dire qu'il faut prouver à chaque fois et tout le temps, oui, je suis bien dyslexique, dysorthographique, etc., etc.
Et alors, ce qui est dramatique dans l'exposé de cette famille, c'est que tout simplement, il y avait droit tout le long de l'année, mais au moment des examens, il y a quelqu'un qui dit non, vous n'y aurez pas.
Alors, j'allais vous demander qui est ce quelqu'un qui dit non, en fait. Quand on pose la question, quand Valérie pose la question, comment, quel est l'accompagnant pour mon fils, qui répond non? Dans ces cas-là, la faute à qui, hein, disons-le franchement?
Alors, je dirais le rectorat.
Donc, du coup, ma question suivante, c'est est-ce que c'est tous les rectorats ou est-ce que, je vais le dire comme ça, il y a des endroits où on est mieux loti et mieux traité lorsqu'on est 10, quel que soit le 10 qui est le nôtre, qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie disparité d'un rectorat à l'autre?
Peut-être, mais en tout cas, nous, la Fédération française des 10, nous avons des remontées de difficultés sur ce thème dans toutes les régions.
Florence Marchal, ce que j'entends et ce qu'on voit dans tous les témoignages qui vont venir, effectivement, c'est l'idée d'avoir à prouver tout le temps, en fait, et constamment. Voilà quel est mon trouble. Donc, c'est non seulement compliqué, et puis c'est très discriminant aussi d'avoir à expliquer où est le problème, en fait, non, à chaque fois.
C'est vrai que c'est un trouble qui est invisible, vous l'avez dit, et qui est mal connu par les professionnels de santé, mal connu par les professionnels de l'éducation nationale. Le problème est souvent d'un diagnostic tardif ou d'une méconnaissance de troubles. Donc il faut se battre effectivement, comme vous le dites, pour accéder à des moyens diagnostiques. Et c'est un parcours tout au long de la croissance et de la scolarité. Et certaines familles ou certains lieux sont mieux équipés pour accéder à quel moment il faut faire le dossier par rapport aux examens et aux mesures d'aménagement. Il faut pouvoir donner des pièces, avoir un bilan orthophonique. Et donc, si on arrive trop tard, qu'on n'a pas compris, voilà, il y a une notion de parcours compliqué, ça c'est vrai, de parcours compliqué, que ce soit pour le diagnostic initial ou pour bénéficier des mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour accompagner.
Valérie nous dit que son fils est aussi développe aussi une phobie scolaire. Est-ce que c'est l'un qui développe l'autre dans ce genre de cas où ça n'a rien à voir, Florence Marchal? Quand c'est si compliqué pour un gamin, on peut imaginer qu'il n'a pas du tout envie d'aller à l'école et qu'il peut développer ce genre de phobie, en fait. Mais
en fait, les troubles spécifiques des apprentissages, c'est des troubles du développement cognitif de l'enfant qui peuvent être difficiles à concevoir, puisque par définition, c'est un secteur de la cognition, un secteur des compétences d'apprentissage qui est touché, alors que par ailleurs, l'enfant va bien sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique. Ce qui est compliqué, c'est que parfois, il y a des associations de troubles. On a le droit d'avoir un trouble dysphasique ou un trouble dyspraxique et d'avoir aussi une fragilité, d'être sensible. Et la conjonction de différentes fragilités peut entraîner, face aussi à l'école, la façon dont elle prend en compte ces différences, ça peut engendrer effectivement des grandes souffrances scolaires.
Bonsoir Ariel.
Oui,
bonsoir. Soyez la bienvenue Ariel, on vous écoute.
Écoutez, je veux aussi témoigner pour mon fils, qui a aujourd'hui 21 ans. Le parcours est comme celui de la personne précédente, chaotique tout le long de la scolarité, parce qu'il faut effectivement toujours prouver les difficultés par différents bilans qui sont très longs. Il y a très peu d'orthophonistes, donc au niveau du temps c'est très très long. Et on arrive jusqu'au bac, bon, il a passé déjà son bac. On avait fait l'option d'un bac technologique pour pouvoir pouvoir aller sur le concret plus que sur la théorie, puisque ça pêche chez lui au niveau de la mémoire, de courte durée, etc. Et du coup, il avait réussi son bac avec des aménagements. Il a eu un secrétaire du tiers-temps, mais jusqu'au bout, Il a fallu se battre jusqu'au bout parce que même le jour même de l'examen, on n'était pas sûr d'avoir les personnes présentes le jour de son examen. Donc c'est des situations qui sont très stressantes. Et on pensait qu'après le bac, il a réussi. Être beaucoup plus tranquille dans ses études supérieures. On s'est dit, ben voilà, maintenant, tu choisis ta voie et ça sera beaucoup mieux. Et en fait, ça reste pareil. Donc, il est parti en IUT et il a échoué. Il a échoué parce que c'est pas pris en compte, parce que ces enfants-là sont noyés dans la masse des élèves qui ne travaillent pas. Et du coup, ces résultats qui baissent malgré tous ses efforts et la masse de travail et tous les efforts qu'il a fournis ne suffisent pas. Donc, psychologiquement, il s'est effondré à ce moment-là. Et puis, on l'a poussé, on a dit, faut pas en rester là, tu vas pouvoir réussir. Et du coup, il est reparti il a choisi une autre voie, faire un BTS en alternance, en CFA. Mmh. Et ce n'est pas mieux. Parce que le CFA, ce n'est plus l'éducation nationale. Et là, eh bien, il n'y a plus rien. Mmh. Plus d'aménagement examen. Il n'y a plus rien du tout. Et du coup, effectivement, il y a de la pratique qui s'associe à la théorie, soit. Mais au niveau pour la prise en charge de ces élèves-là, c'est le vide complet.
Merci Ariel pour ce témoignage qui, Nathalie Gros, doit pas du tout vous étonner. En fait, j'imagine que vous avez entendu ça des dizaines de fois. Mais moi, du coup, la question qui me vient, c'est comme vous l'entendez depuis très longtemps et depuis tout le temps, à quel moment on a vraiment pris en compte ces enfants-là? À quel moment ça entre en ligne de compte ou pas?
Ça doit rentrer en compte dès le plus jeune âge. Et ça doit continuer même après au monde adulte.
Ça doit, j'entends votre ça doit, parce que je suis d'accord avec le ça doit. Comment se fait-il qu'on en soit encore là, en fait? C'était le sens
parce
de ma
que
question.
La réponse, elle est, je dis toujours, c'est la méconnaissance des troubles qui sont invisibles et deux, la non-formation de la plupart des professionnels.
J'entends dans ce que dit Armel à l'instant, en gros, on l'a mis dans la catégorie que ceux qui travaillent pas, on le met dans la catégorie des mauvais élèves parce que il fait plein de fautes d'orthographe et de toute façon, voilà. Est-ce que c'est ça aussi la difficulté, arriver à déceler, et est-ce que c'est facile, y compris pour les parents, de déceler le moment où là, ce problème en orthographe par exemple, c'est plus qu'un problème en orthographe, c'est une vraie dysorthographie. Est-ce que c'est très compliqué de déceler ce genre de choses? Florence Marchal, si vous voulez.
Oui, il y a effectivement un continuum entre être pas bon en orthographe et avoir un trouble et une pathologie. Mmh. Et c'est vrai que la formation et la compétence dans ce domaine, des professionnels, que ce soit des médecins, des rééducateurs, des psychologues, permet de faire un peu la part des choses. Il ne faut pas médicaliser des difficultés scolaires qui ne relèvent pas d'une pathologie. Et il faut déceler et pas laisser des enfants en perdition alors qu'ils souffrent d'un réel trouble. Ça, c'est une chose très, très importante.
Nathalie Gros ?
Il y a trois acteurs. La famille, qui voit la galère pour faire les devoirs. Deux, l'enseignant, qui voit que l'élève n'évolue pas comme un élève de la classe. Et puis trois, le professionnel de santé, qui va essayer de chercher pourquoi cet élève ne poursuit pas, n'arrive pas à rentrer dans la lecture, par exemple, pour le dyslexique. Ces trois acteurs, c'est la santé, l'éducation et la famille. Mmh. Et à trois, souvent, ils y arrivent à trouver qu'est-ce qui va pas. Si on laisse trop traîner, y a des enfants, ils arrivent à 12 ans, on sait toujours pas ce qu'ils ont.
J'allais vous demander à quel âge, est-ce qu'il y a un âge, en fait, alors j'imagine qu'il n'y a pas une règle évidemment, mais est-ce qu'il y a un âge où on peut mettre un nom sur le trouble et on peut se dire avec certitude, oui, c'est pas un problème de calcul, c'est pas un problème de lecture, c'est pas un problème d'orthographe, c'est vraiment un problème de dyslexie. Est-ce qu'il y a un âge, en fait?
Ça dépend de la fonction qui est touchée. Si c'est à la fonction du langage oral, il faut être vigilant très très tôt, puisque un enfant qui rentre pas dans le langage oral et qu'on n'arrive pas à comprendre à l'âge de 3 ans, il faut déjà s'inquiéter, chercher des causes. Et si, au contraire, on parle de difficultés orthographiques qui relèvent d'une pathologie, d'un trouble orthographique, il faut bien sûr que l'enfant ait été exposé à l'apprentissage.
Mais c'est pas pareil, par ailleurs, parce que c'est pas grave, par ailleurs, de faire des fautes d'orthographe en soi.
Exactement.
Quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, sans qu'on ait réellement identifié que ça peut être un vrai trouble, en fait.
Mais je voulais aussi rebondir sur l'histoire d'Ariel et de son fils. Au cours de l'évolution, certains jeunes progressent et font avec leurs troubles et les progrès qu'ils ont faits et les adaptations qu'ils ont intégrées à leurs apprentissages. Et puis d'autres restent en très grande difficulté. Et là aussi, il y a un continuum et il faut trouver une frontière entre... J'ai un trouble et j'ai des aménagements, mais j'ai un handicap. Et parfois, il faut rentrer aussi dans une reconnaissance d'un handicap, d'apprentissage ou de situation scolaire ou professionnelle.
Est-ce que la dyslexie, la dysorthographie, est-ce que les 10 ou il y a des 10, je vais le dire comme ça, Nathalie Gros, qui sont considérés comme des handicaps estampillés comme tels?
Depuis 2005, les troubles cognitifs spécifiques sont dans le champ du handicap.
Mais à quel moment on décide, là aussi, pour un enfant comme celui d'Ariel, on acte que oui, là, on est dans le handicap, ce qui peut amener derrière, j'imagine, plus d'aide, plus de facilité, en tout cas moins de difficultés pour des enfants comme cela.
J'ai envie de réenfoncer le clou de Nathalie Gros. C'est un partenariat entre le jeune, le patient lui-même, qui peut être enfant ou jeune adulte, la famille, les professionnels de la scolarité et les professionnels de santé. Et c'est la prise en compte du retentissement qui signe le handicap.
Et Florence Marchal, vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce qu'il peut y avoir vraiment des hauts et des bas, c'est-à-dire des moments où ça va beaucoup mieux, mais d'autres où on replonge réellement, ça redevient difficile, ça existe ça ou pas?
Oui, ça peut évoluer parce que les exigences scolaires évoluent au fur et à mesure du parcours, donc il y a des périodes un petit peu charnières. Ça peut évoluer aussi parce que un individu, il n'est pas fait que de ses compétences intellectuelles et d'un trouble spécifique qui touche une fonction précise, mais il est aussi fait de ses émotions, de sa sensibilité, et donc les choses se complexifient et se mélangent.
Allez-y, Nathalie Gros.
Je voulais juste dire que les maisons départementales des personnes handicap évaluent justement les répercussions à travers les bilans des professionnels de santé, à travers ce que rédige l'Éducation nationale, et évalue quels sont les moyens de compensation possibles. Donc là, il peut y avoir le besoin d'une aide humaine, le besoin d'adaptation pédagogique. Et ça peut être traduit dans un plan ou un projet, un plan d'accompagnement ou un projet personnalisé de scolarité.
Alors justement, tiens, on parlait de difficultés pour l'Éducation nationale et pour les enseignants aussi, qui ne savent pas forcément comment on fait pour déceler, pour alerter et pour aider. Je voudrais qu'on écoute Eglantine, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie de prendre mon appel.
Allez-y, Eglantine.
En tant qu'enseignante de l'Éducation nationale, je voulais dire que on n'est pas du tout ou très très peu formés sur les 10, c'est-à-dire au mieux une demi-journée ou une journée à laquelle on s'inscrit, il faut que ce soit autorisé, l'absence, etc. Et inutile de vous dire qu'une demi-journée ou une journée, même avec une pause figolue au milieu, ça ne suffit absolument pas pour maîtriser ce genre de choses. Donc, on a éventuellement des documents officiels, individuels, par élève, qui de temps en temps nous sont communiqués pour qu'on s'adapte. Seulement, les 10 ne sont pas touchés de la même façon, on ne doit pas avoir les mêmes stratégies. Et moi, en ce qui me concerne, tout ce que je sais pour adapter mes cours, je le sais de par mon expérience, de tout ce que je lis, et pas du tout parce que j'ai été formée pour ça. Donc, je voulais dire aussi que l'Éducation nationale nous parle d'intégration, ce qui est très bien. Cependant, l'Éducation nationale ne met absolument pas les moyens, autant en termes de personnel que de formation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec la réforme prévue par Monsieur Blanquer, c'est mal parti pour s'arranger. Donc moi, de façon générale, je veux bien m'adapter à mes élèves 10, mais sans aide, sans temps imparti, sans explication, ça me semble très très difficile, voire impossible. Et en plus, je ne suis pas une Wonder Woman de la pédagogie.
Merci beaucoup Eglantine, merci, je voyais faire oui avec la tête Nathalie Gros. Si on n'explique pas aux profs comment on décèle, comment ça marche, comment on peut aider, comment voulez-vous qu'on les aide ces gamins au fond? C'est un peu le diable qui se mord la queue cette histoire.
Effectivement, il faudrait qu'il y ait une formation initiale, sachant qu'une formation initiale ne peut pas tout apprendre, puisqu'il faut apprendre aussi au continu, au fur et à mesure en continu, une formation continue. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait absolument que l'Éducation nationale comprenne, c'est que en 2001, je reviens à l'histoire, c'est qu'il y a un plan langage qui a été rédigé, et c'était l'alliance de l'éducation et de la santé. Pour nous, c'est primordial que la santé puisse aider, rentrer dans l'école, pour aider les enseignants à mieux comprendre et à transposer finalement des solutions que peuvent apporter l'orthophoniste, l'ergothérapeute ou le psychomotricien.
Parce que j'imagine qu'il y a des solutions qui peuvent être extrêmement simples, au moins pour démarrer. Je veux pas dire n'importe quoi, mais enfin, si Églantine donne une interro, il suffit peut-être de donner une demi-heure de plus à celui qui a du mal dans la lecture, par exemple, et qu'il aura plus de temps pour lire ce qu'on lui demande. Enfin, c'est bête et méchant, au fond, pour certaines choses, en tout cas, non, Florence Marchal. Il y a des compensations, des stratégies de contournement qui doivent aider assez facilement, finalement. On en sent que ce soit extrêmement lourd.
C'est vrai, elles sont assez bien décrites et diffusées. Je crois que ce que pointe Églantine, c'est un petit peu encore plus loin dans les adaptations pédagogiques. Et on rencontre, quand on rencontre les professeurs dans les écoles autour de situations d'enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages, on rencontre des enseignants qui sont très inventifs, qui sont très, très investis pour aider. Et j'ai envie de dire que s'ils étaient mieux formés, et là aussi il y a des disparités selon les régions, puisque certains enseignants sont formés, mais quand un enseignant est mieux formé pour accompagner des 10 et qu'il sait
regarder, comment, qu'il sait comment ça marche,
voilà, qu'il sait comment certains apprentissages se font différemment, ça, c'est utile à l'ensemble des élèves. Parce que ça élargit les façons d'apprendre et c'est utile à l'ensemble des élèves.
Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Bienvenue Lucie.
Oui, donc je me présente, bonsoir à toutes les trois. J'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 ans multidys, donc dyscalculique et dyspraxique. Pendant toute ma scolarité, personne ne s'est posé de questions à mes difficultés scolaires, à part une enseignante, mais qu'on n'a pas écoutée. Et aujourd'hui... je suis à la recherche de professionnels qui peuvent m'écouter et me soutenir face à mes démarches de formation adaptées à mon handicap cognitif.
Vous avez pu aller jusqu'à quel niveau, Lucie, du coup ?
Début de seconde et pro, et malheureusement, j'ai fait un burn-out scolaire. Une phobie scolaire, comme ils disent.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça veut dire que vous cherchez à rejoindre un circuit d'études pour pouvoir trouver un travail derrière ou tenter d'entrer directement sur le marché du travail ? Au fond, aujourd'hui, votre difficulté, vous recherchez quoi ?
Une formation adaptée.
Une formation adaptée à mes compétences et surtout qui soit adapté dans la Manche, parce que dans la Manche, on n'est pas beaucoup aidé, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose de proposer aux personnes comme moi.
On entend votre maman derrière, on la salue, oui. Lucie. Juste une dernière chose avant de vous laisser. Vous dites que vous avez abandonné l'école en seconde, vous avez 23 ans. Est-ce que ça veut dire que depuis ce laps de temps-là, vous n'avez rien fait, c'est ça ? Pas réussi à avoir une vraie scolarité, ça fait beaucoup d'années à ne rien faire, au fond, alors que vous cherchez.
Oui, j'étais en dépression malheureusement, Marie rigole, j'étais en dépression et on m'a beaucoup remis la faute sur moi et professionnel, il n'y avait pas grand monde autour et la famille laissait tomber et disant que c'était la faute de mes parents, voilà.
Merci beaucoup Lucie pour ce témoignage, on salue votre maman encore une fois aussi derrière et on comprend combien c'est difficile. Marie Gros, je me tourne vers vous d'abord. Lucie a 23 ans, diagnostiquée à 18 ans, sortie du système, enfin on a gâché la scolarité d'une gamine comme Lucie au fond, c'est ça qui se passe dans un cas comme ça. Comment peut-on être diagnostiquée à 18 ans, c'est tellement tard au fond.
Malheureusement, il y a beaucoup de disques qui passent à travers les mailles. Qui sortent du système scolaire sans diplôme. Mais
comment on peut la rattraper, là, Lucie, en fait ?
Comment on peut la rattraper ? C'est une bonne question. Hein. Il faut d'abord lui redonner confiance en soi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Clair. C'est pas seulement le lieu, c'est l'envie, la confiance.
Mais
aussi.
Surtout, j'avais envie de dire quelque chose de très important. C'est que, justement, la fédération, elle a mené une enquête... une semaine, début mai. Et il se trouve qu'il y a 1500 personnes qui nous ont répondu. Et cette violence, les dépressions, la violence psychique et la violence parfois physique qui se trouve à l'école, on a récolté plus de 400 témoignages. Et c'est malheureusement pas un cas isolé, c'est ça que je voulais dire. Alors après, il faut absolument trouver des solutions. Le monde de l'emploi peut aider. parce qu'il faut faut trouver des solutions. Il y a des employeurs avec des reconnaissances RQTH, alors reconnaissance de travailleurs, qualité de travailleur handicapé. Peut, avec la GFIP, adapter les postes et redonner confiance avec des tuteurs et être plutôt dans le pratique que de rester dans les études, dans la théorie.
C'est ce que
il y a des employeurs, vous savez, qui prennent, non pas parce qu'il y a pas, certains jeunes n'ont aucun diplôme.
Ouais, c'est le cas de Lucie.
Ils vont juste regarder si l'emploi qu'ils peuvent proposer correspond à l'envie, à l'envie du jeune et ils vont essayer de le former.
C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que dans un cas comme Lucie, on n'a pas intérêt à ce stade-là, à zapper la formation, l'étude, essayer de trouver un endroit, une entreprise où elle se sente bien et qui l'apprendra et qui la formera au fond, parce que c'est ça qui lui redonnera confiance, non, Florence Marchal? Parce que ce que j'entends aussi, c'est la même chose que notre auditrice, la première auditrice, j'entends phobie scolaire, j'entends dépression, qui sont forcément un corollaire évident quand on a été jeté du système scolaire alors que c'est pas de sa faute.
Alors les enjeux et les difficultés et le travail à abattre pour améliorer les choses sont un peu différents dans le monde de l'adulte.
Ouais.
Y a beaucoup de choses à faire encore auprès des enfants, mais c'est encore une friche plus importante quand on devient adulte. Et peut-être que les questions diagnostiques très précises sont peut-être moins importantes une fois que les choses ont été dites et qu'on est qu'on a établi le fait que le jeune adulte avait des capacités, mais qu'elles étaient hétérogènes. Et peut-être, là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, peut-être que quand une personne est tellement en difficulté psychique et cognitive pour reprendre un circuit pour apprendre et travailler, il faut peut-être se tourner vers effectivement des professionnels du handicap dans différentes spécialités pour que des adaptations puissent être mises en place.
Nathalie Gros, en attendant Lucie qui est dans la Manche et qui nous montre aussi la disparité géographique qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'on lui conseille? Est-ce que c'est vers la Fédération Française des Dys qu'elle se tourne pour essayer d'avoir au moins une piste, un numéro, quelque chose qui pourra l'aider?
De regarder sur notre site s'il y a une association locale qui pourrait l'accompagner, puisque elle n'est pas seule. Hein. 7 millions de 10 en France, il y a forcément autour d'elle...
Et un endroit qui sera ravi de l'accueillir, c'est tout ce qu'on lui souhaite avec beaucoup de courage. Fédération Française des 10, Lucie, allez voir avec votre mère, allez voir sur le site internet que vous trouverez facilement. François, bonsoir et soyez le bienvenu, François.
Bonsoir.
On vous écoute. Ouais, je vous entends, allez-y.
Bon, voilà. Donc moi, j'ai 57 ans. J'étais un enfant dyslexique, donc une scolarité à une époque où on n'en parlait pas. Tout ça, ça a été catastrophique, extrêmement dur et violent, parce qu'en plus, par ailleurs, j'étais un enfant précoce, et donc face à moi, j'avais des gens qui comprenaient pas que je faisais des fautes de partout, que j'étais pas foutu d'écrire correctement, et qui, je comprenais tout ce qu'on m'expliquait. Donc, ils croyaient vraiment que je me moquais d'eux, ce qui m'a rendu la vie extrêmement compliquée face à ces gens-là. La vie a passé, je suis prof maintenant, bon, donc c'est possible, en même temps, je suis pas un très grand dyslexique, c'est-à-dire que j'arrive à lire, à écrire quand même.
Vous êtes prof de quoi, François?
Je suis prof d'éducation musicale.
D'accord.
Alors, notre problème, c'est que je ne peux pas lire la musique avec ma dyslexie. Ouais. Les lignes se mélangent, c'est pas possible, j'y arrive pas. Quoi. C'est vraiment, j'ai essayé. Hein,
mais c'est un vrai musicien, du coup, vraiment.
Il a fallu que je développe, oui, un peu de mémoire, un peu d'oreille, etc. Voilà. Et donc, bon, ça a été dit par une collègue, je crois, qui a appelé un peu plus tôt par rapport à la formation. Mais je voudrais aussi souligner que pour nous, ça pose un très gros problème parce que d'abord, on cerne. Alors moi, je sais de quoi je parle dans un cas particulier, mais c'est très vaste. Et on se retrouve avec des classes où on a 27, 28, 30 élèves avec et on est obligé de fabriquer des séquences adaptées. Et ça devient très très compliqué et très lourd parce qu'on fait on fait plus une séquence à l'intérieur de cette séquence, on en fabrique 2, 3, 5, 10 parce qu'on se retrouve avec un tas d'adaptations. Je précise quand même que de prendre ça en compte, c'est vraiment important et c'est une très bonne chose. Mais il faudrait qu'on puisse s'adapter, il faudrait qu'on ait les moyens, les compétences, le temps. Et on est obligé de tracer, d'avancer, d'avancer, et ces gamins-là, on les perd, et c'est catastrophique, et ça me fait très mal au cœur parce que je sais de quoi je parle. Mais Voilà.
Et je c'est fou parce si... que vous, François, comment vous faites? Parce que vous êtes la définition de la stratégie de contournement. Vous êtes prof de musique et vous pouvez pas lire le solfège. Moi, je trouve ça formidable.
J'ai passé le bac. J'avais 40 ans. J'étais à la fac. Bon, donc j'ai intégré les connaissances comme ça. Mm-hmm. Il a fallu que je me débrouille comme ça. Et quand j'ai passé le CAPES, le CAPES externe était inaccessible pour moi. Fallait que j'écrive une dissertation. Fallait que je fasse de l'harmonie. Mm-hmm. Fallait que je fasse du solfège. Impossible. Et donc j'ai été contractuel. J'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 6-7 ans, et puis j'ai passé le CAPES en interne, c'est-à-dire sur une épreuve professionnelle. Et donc, où on m'a pas demandé d'écrire ou de lire la musique. On m'a demandé de faire ce que je dois faire pour faire mon travail correctement. Et là, du coup, ça passait tout seul, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, François. Merci vraiment pour ce témoignage. Dans le même ordre d'idée, Nathalie Gros, un petit peu de côté, mais à peine, il y a ce message de Paul sur l'appli de France Inter qui dit « La mise en échec des enfants dyslexiques par les dictées à l'école est-elle obligatoire? Demande-t-on à un aveugle de décrire les couleurs ?» Ça me fait penser à François, effectivement, qui doit être un excellent prof de musique, sauf que par la voie normale, il y avait zéro chance d'y arriver. Par une voie contournée, il a fini par y arriver. Allez-y.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que le correcteur d'orthographe, il est autorisé pratiquement dans tous les aménagements aux examens.
C'est déjà
sauf pour devenir professeur des écoles.
Ouais.
C'est le seul concours où on n'autorise pas. Et pourtant, vous voyez, on a l'exemple d'un professeur. Donc, tout est possible. Aujourd'hui, on vit avec les ordinateurs. Le correcteur d'orthographe, tout le monde y a droit. Pourquoi l'empêcher au moment du concours du professeur des écoles?
Il y en a Gladys sur Twitter qui dit « Je suis dyslexique et même si j'avais beaucoup de mal à lire, je n'appréciais que les BD. Et les BD, c'est lire aussi. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas être dégoûtée par la lecture. » Florence Marchal, là aussi, ça s'appelle du contournement. C'est pas la peine de s'acharner peut-être sur des choses qui sont extrêmement rébarbatives parfois. Là aussi, c'est une forme de contournement. Puis la BD, c'est formidable aussi d'ailleurs.
Et
de toute
radio,
façon, quoi qu'il en soit.
Et la radio aussi.
Et la radio, en effet, également. Oui. On peut apprendre avec la radio, on peut entendre des livres audio et on y prend aussi beaucoup de plaisir.
Et des pièces de théâtre.
Et des pièces de théâtre.
Non, mais ce qui est terrible dans les témoignages qu'on entend, c'est que il existe des moyens d'aider ces enfants. On a dit qu'il y avait un manque de formation du côté enseignant ou du côté des professionnels de santé, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont formés. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans les moyens de rééducation et de réadaptation. On sait faire plein de choses pour faire progresser et aider ces enfants. Et donc, il faut effectivement pouvoir accéder à cette offre de soins et la développer. Et on n'a pas parlé d'une profession qui est très importante pour peut-être améliorer le parcours scolaire quand on se sent un peu seul, c'est les médecins de l'éducation nationale, les psychologues de l'éducation nationale qui peuvent avoir un niveau de compétence important pour dépister, orienter et donner aussi des conseils et des échanges avec les équipes pédagogiques pour mettre en place les adaptations. Donc pourquoi mettre en échec les enfants et pourquoi ne pas valoriser leurs compétences, comme vous dites, en détournant les moyens et en utilisant ceux qui peuvent utiliser.
C'est parfois très éducation nationale chez nous que, puisqu'il faut faire une dictée, tout le monde se mettra à faire la dictée. Mettez-vous sur ligne et je veux voir qu'une tête, mais je veux pas qu'il y ait des messages négatifs. Ce soir, je voudrais qu'on écoute Gérard. Bonsoir Gérard.
Bonsoir madame. Voilà, je vous appelle parce que mon fils a été dyslexique et est toujours dyslexique. Et Il a eu droit à l'éducation nationale à un ordinateur portable qui lui a permis de passer le brevet, puis le bac. Le bac, il a eu avec 10 de moyenne. Et après, il a réussi à rentrer en fac de médecine. En faisant ses études de médecine, la première année, c'est très difficile, une première année, mais il est arrivé 500e sur une académie où il y avait...
C'est pas mal, hein, 500e.
Et la deuxième année, il a réussi sa deuxième année en étant 50e.
Bravo.
C'est-à-dire en contournant les difficultés au niveau de la dyslexie, parce que la dyslexie c'est quelque chose d'un petit peu difficile à cerner pour les gens qui la connaissent pas, parce que enfin nous on est toute une famille de dyslexiques, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire quelque chose si on est bien entouré. On est tombé sur un excellent médecin scolaire en troisième qui a mis tout ça en place. C'est la volonté du gamin, mais là c'est très très bien passé. L'éducation nationale a bien aidé. Voilà.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, Gérard. Preuve, Nathalie Gros, que parfois ça marche, avec un peu de bonne volonté et d'envie, ça marche. Ça marche, j'imagine, dans plein d'endroits aussi. C'est bien de le rappeler.
Je résumerai en deux mots, persévérance et optimisme.
Voilà, l'optimisme,
avec
c'est
important. Avec ces deux, vous croyez et vous pouvez y arriver.
Florence Marchal, j'ai entendu, il y a quelque chose qui a sonné à mon oreille dans le témoignage de Gérard, c'est on est une famille de dyslexiques. On peut être une famille de dyslexiques, c'est transmissible, si je puis dire ?
Pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que ce sont des troubles qui sont multifactoriels, où il y a une part génétique. En particulier, c'est mieux connu dans les troubles du langage et du langage écrit, un petit peu moins cerné dans les autres 10. Mais il y a une part génétique qui peut être plus ou moins importante selon les histoires de dyslexie. Il y a une part environnementale, il y a une part liée aussi aux troubles de santé qu'on peut rencontrer au cours de sa petite enfance, notamment par rapport à l'audition. Donc c'est multifactoriel et dans certains cas, la part génétique est importante. Et effectivement, il y a des familles dyslexiques où les dyslexies sont plus ou moins sévères.
Une dernière question qui nous vient de Yann sur franceinter.fr. J'ai découvert que j'étais dyslexique à 22 ans. J'ai vu une orthophoniste qui m'a pris en charge. On a suivi un protocole et un traitement de brain gym. C'est comme ça qu'on appelle ça. La gym du cerveau. Ça marche, vous connaissez ça, Florence Marchal? On n'a pas assez parlé du rôle des orthophonistes dans cette prise en charge, en fait.
Les orthophonistes sont en première ligne pour les troubles du langage oral et les troubles du langage écrit, la lecture, la transcription. Il y a des travaux, des études qui sont très claires sur ce qu'il faut faire, sur le nombre de séances. C'est plutôt des prises en charge intenses, plusieurs fois par semaine, et sur une ou deux années plutôt qu'une fois par semaine pendant 8 ans. Ça, c'est vraiment proscrit maintenant. Et après, il peut y avoir des adaptations en fonction de la nature du trouble et de la sévérité. Mais les choses sont très codifiées et rigoureuses.
Il y a un auditeur sur l'appli France Inter qui nous demande votre avis à toutes les deux sur la méthode Davis. C'est quoi la méthode Davis, Nathalie Gros? Non, je ne sais pas du tout. Une méthode alternative pour travailler sur sa dyslexie, nous dit-il.
Oui, moi je vais répondre en tant que fédération. Il n'y a pas une méthode magique.
Okay.
L'orthophoniste. Il faut aller voir l'orthophoniste.
Ça en revanche, c'est pas magique, mais c'est médical et ça marche. Enfin, en tout cas, ça peut
aider.
Elle
va adapter. Elle va regarder ce qui marche, comment le jeune fonctionne, et elle le rééduquera à la carte. Une méthode qui marche pour tout le monde, si elle avait été trouvée, on le saurait.
Et il n'y aurait plus de dyslexique. Juste un mot, Florence Marchal, vous connaissez la méthode Davis, vous, ou pas?
Non, je ne la connais pas. Les méthodes alternatives, il faut être très prudent.
Comme toujours.
On a entendu beaucoup de souffrances dans les témoignages qui ont été rapportés, et donc il faut faire attention de pas utiliser cette souffrance pour vendre des choses qui sont pas prouvées comme efficaces.
Allez, le message a été passé, le message d'optimisme et de confiance en soi que vous avez voulu faire passer, Nathalie Gros, on l'a bien entendu aussi. Merci à tous pour vos très nombreuses questions, merci pour vos réponses, portez-vous bien.